Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Margot Léridon, mais aussi Bertille Bourdon, Lucas Lazo et Nicolas Sendé, réalisée ce matin par Alexandra Longuet et à la technique Théo Gomard. Troisième temps de notre série consacrée au monde de la compétition sportive et du sport international. Des modèles à bout de souffle, c'est la question que nous posons toute cette semaine. Nous évoquions lundi l'avenir des méga événements sportifs comme les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde. Nous parlions hier de la crise économique des clubs de foot en Europe. Demain, jeudi, il sera question de la libération de la parole sur les violences sexuelles dans le sport. Mais ce matin, direction les États-Unis, racisme et violences policières, les sportifs entrent en jeu.
Partout dans le monde, on voit des sportifs qui se dressent et qui utilisent leur voix pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, pour s'agenouiller eux-mêmes. Malheureusement, je crois que nous avons encore un long chemin à parcourir et qu'il faut encore faire énormément de progrès, mais il faut qu'on continue à se battre pour ce qui est juste et pour les droits humains de tout le monde.
No matter how much money you have,
peu importe combien d'argent vous gagnez, peu importe votre célébrité, peu importe le nombre de personnes qui vous admirent, être noir en Amérique est difficile. Et nous avons encore un long chemin à parcourir en tant que société et en tant qu'Afro-Américains pour que nous nous sentions égaux. Le racisme systémique doit cesser maintenant. Nous devons prendre le temps d'écouter et d'éduquer notre famille, nos amis, nos enfants sur l'injustice sociale et l'égalité raciale. La vie des Noirs compte plus que jamais.
Et vous avez peut-être reconnu leur voix, Megan Rapinoe, championne du monde de football, LeBron James, star du basketball, et Michael Jordan, autre icône du basket. Ils font partie de cette petite élite du milieu sportif qui a fait le choix d'utiliser sa renommée au service d'une cause, la dénonciation du racisme aux États-Unis et des violences policières. En écho et en soutien au mouvement Black Lives Matter, ils sont de plus en plus nombreux à poser un genou à terre ou à lever le poing en début de match. Si le geste est symbolique, il n'est pas sans risque. Souvenez-vous, en 2016, le joueur de football américain Colin Kaepernick est alors le premier à refuser de se lever pour l'hymne américain. Son geste provoqua la colère du président Trump et d'une bonne partie de l'opinion publique, qui l'interprète alors comme un manque de respect à la nation. Mis sur le banc de touche par son club, le joueur n'a jamais pu revenir sur le terrain en tant que professionnel. Il faut dire que sport et politique ne font pas toujours bon ménage aux États-Unis. Pour beaucoup, la compétition y est perçue comme un divertissement que le militantisme ne devrait pas perturber. Sauf que le monde du sport ne peut rester sourd aux discriminations raciales qui ne cessent de gangréner le pays et dont les athlètes sont parfois les premières victimes. Alors assiste-t-on à un réveil du mouvement sportif sur les questions de société? Les joueurs qui font entendre leur voix aujourd'hui sont-ils les héritiers du boxeur Muhammad Ali ou du coureur Tommy Smith qui, en leur temps, avaient accompagné le mouvement des droits civiques puis du Black Power? Si l'histoire de l'engagement des sportifs américains est longue, que nous dit celle en train de s'écrire actuellement? Eh bien, ils sont deux invités avec nous ce matin pour aborder toutes ces questions. Olivier Richaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes auteur notamment de La diversité en Amérique, politique de représentation des minorités ethno-raciales aux États-Unis. C'était aux presses universitaires de Paris-Sorbonne en 2013. Et puis également avec vous, toujours à distance, François-René Julliard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous doctorant en histoire contemporaine aux universités Clermont-Auvergne et Paris-Nanterre. Vous êtes en train de rédiger une thèse intitulée « Les sportifs africains-américains et les Jeux Olympiques d'été, études sur les stratégies politiques d'élévation raciale 1896-1996 ». Alors, poser un genou à terre pour protester contre le racisme et les violences policières. Olivier Richaume, on a vu beaucoup d'images dans les médias, mais on aimerait peut-être essayer de comprendre, est-ce que c'est un usage vraiment courant aujourd'hui dans le sport professionnel, ou bien est-ce que c'est seulement le fait, on va dire, de quelques stars, ou alors au moment de rencontres, soit très importantes, soit très médiatisées? Est-ce que vous pouvez nous aider à mesurer l'ampleur de ce mouvement?
Alors en fait, le geste de mettre un genou à terre, ça reste controversé et c'est très compliqué. Par contre, l'implication politique des athlètes, on l'a vu récemment avec voilà ce qui s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter, en particulier avec certains sports où là c'est très bien organisé. On a eu une évolution extraordinaire, on va dire en 2020, où on a une ligue, deux ligues, la ligue de basket masculine et féminine qui se sont organisées et là on voit qu'on a des athlètes qui reprennent les choses en main, qui s'organisent, qui coordonnent ça avec les propriétaires, avec les commissaires et les gens qui dirigent la ligue professionnelle. Et donc ça, c'est nouveau, parce qu'avant, historiquement, on avait des individus dans leur coin qui, voilà, soit refusaient de se lever pour l'hymne national, soit qui décidaient de marquer voilà leur désaccord d'une autre façon, mais qui restaient isolés, qui prenaient des risques pour leur carrière et puis pour leur avenir financier. Alors que là, on a quand même une organisation, en particulier dans certains sports, qui est quand même vaste et qui change beaucoup les choses.
François-René Julliard, vous partagez ce constat d'un mouvement qui est en train de passer de l'engagement de quelques-uns, peut-être les plus connus, à quelque chose de beaucoup plus partagé, de beaucoup plus systémique.
Oui, tout à fait. En fait, ce que dit Olivier Richaud est tout à fait vrai, c'est-à-dire que ces athlètes qui prenaient des risques pour leur carrière, qui agissaient de façon individuelle, on a plutôt ce modèle-là dans les années 60, notamment fin des années 60 dans le contexte du Black Power. Et vous avez à nouveau un rejeu de ce phénomène avec Colin Kaepernick qui est, malgré tout, malgré le fait que certains de ses camarades, de ses coéquipiers limitent, malgré le fait que certains dans la ligue de football professionnelle limitent aussi, ça reste quelqu'un de relativement isolé, de relativement contesté. Vous aviez parlé de Trump, de l'agacement de Donald Trump. Maintenant, en 2020, après la mort de George Floyd, après les blessures très graves infligées à Jacob Blake, vous avez eu une généralisation de cette tendance, de ces gestes qui se sont démocratisés, si je puis dire, et un peu dans tout un tas de sports. C'est-à-dire le basket féminin masculin est à l'avant-poste de ce mouvement, mais vous avez aussi des choses qui se produisent un peu dans voilà, un certain nombre de sports. Le football tel qu'on l'appelle nous, le soccer aux États-Unis, mais aussi le tennis, la Formule 1, vous avez aussi voilà un petit peu à nouveau le foot américain, un petit peu moins le baseball. Bref, c'est des athlètes qui, si on les additionne quand même, forment maintenant une certaine masse.
Arrêtons-nous peut-être un instant sur la figure de Colin Kaepernick, donc ce joueur de football américain qui donc en 2016 a décidé de ne pas se lever au moment de la diffusion de l'hymne américain, puis de poser un genou à terre. Est-ce que c'est à lui qu'on doit d'une certaine manière le réveil du mouvement des sportifs, même si vous disiez que il est aujourd'hui un peu isolé, mais est-ce qu'il a joué quand même un rôle plus ou moins décisif dans ce réveil du mouvement sportif? François-René Julliard.
Je dirais qu'il a joué un rôle important, donc effectivement, donc à un moment où il était relativement isolé. Cela dit, il faut pas négliger l'arrière-plan, le fond que constitue un réveil militant plus général, pas seulement des sportifs, mais aussi plus généralement de l'Amérique noire, à partir des années, disons, du deuxième mandat de Barack Obama, en 2013-2014, avec la naissance de ce mouvement d'importance qui s'appelle donc Black Lives Matter, et qui a fourni, et c'était pareil aussi dans les années 60, c'est-à-dire que quand le reste de la société connaît le reste de la communauté noire, disons, connaît un éveil militant, activiste, eh bien, vous avez des sportifs qui finissent par emboîter le pas, si je puis dire. Et c'est le cas de Colin Kaepernick. Et donc, il a un rôle, oui, effectivement, un peu comme Mohamed Ali avait pu mettre le feu aux poudres, si on peut dire. Enfin, qu'il était cet athlète critiqué, clivant, rejeté par une partie de l'opinion, mais aussi adulé par une autre. Et donc, oui, on peut dire que Colin Kaepernick est le nom auquel on peut associer ce renouveau du militantisme sportif, oui.
Olivier Richomme, Colin Kaepernick, héritier de Muhammad Ali.
Alors là, une question intéressante. Est-ce que le mouvement des droits civiques, est-ce que Black Lives Matter et la continuité du mouvement pour les droits civiques, est-ce qu'on peut tirer un fil comme ça? Oui, oui et non. Muhammad Ali et Kaepernick sont deux figures intéressantes parce que tous les deux ont payé un prix assez important médiatiquement. Muhammad Ali, bon, peut-être lui qui a payé le prix le plus cher parce qu'il a quand même mis une croix sur 3 ans de sa carrière alors qu'il était au summum de son art. C'était peut-être le sportif le plus connu, le plus médiatisé aux États-Unis et puis peut-être au niveau mondial avec une personnalité voilà plus grande que. Et alors que Kaepernick n'était pas non plus un athlète si connu que ça, surtout en dehors voilà des gens qui s'intéressent au foot américain, qui reste quand même un marché limité aux États-Unis. Beaucoup, mais qui symboliquement a joué un rôle important et qui a payé voilà un prix parce que sa carrière a été voilà mise entre parenthèses. Mais donc la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que le mouvement pour les droits civiques se prolonge dans Black Lives Matter? Un des l'aspect le plus important de ce mouvement est qu'en fait on met l'accent sur les bavures policières. Les bavures policières sont liées en fait à une réforme plus vaste du système judiciaire américain. Et là on peut voir que dans les années 60 on avait déjà ce genre de questions qui étaient là, mais que le mouvement pour les droits civiques n'a pas apporté beaucoup de réponses, en particulier de point de vue législatif, parce que c'est très compliqué dans un système fédéral. Et donc on n'a pas réformé ce système judiciaire américain. On n'avait pas non plus un système d'incarcération de masse qui s'est développé à partir des années 70. Mais donc on voit que les vieux démons qui hantent l'Amérique reviennent aujourd'hui. Alors est-ce que c'est une nouvelle étape dans la quête d'égalité ou est-ce que aux États-Unis, ou est-ce que c'est la continuité du mouvement pour les droits civiques? Ça, c'est les historiens qui pourront nous dire dans quelques années.
Alors peut-être qu'on peut essayer de voir dès à présent les filiations qu'il peut y avoir entre les mouvements des années 60, 70 et puis ce qui se passe aujourd'hui. Et si on revient à la mobilisation spécifique des sportifs, on peut peut-être essayer de se demander aussi d'où viennent ces gestes, c'est-à-dire le genou à terre, le poing levé. Symboliquement, ils sont très forts et ils s'inscrivent dans une histoire. François-René Julliard, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel héritage se rattachent ces deux gestes?
Alors, en fait, l'héritage est double. Enfin, vous parlez donc des deux gestes qui souvent s'additionnent, par exemple chez Kaepernick et puis chez ceux qui l'ont suivi. Et il ne se rattache pas exactement à la même période du mouvement des droits civiques. C'est-à-dire, traditionnellement, encore qu'on pourrait nuancer et que l'historiographie a tendance à nuancer cette opposition, on a deux grandes phases de ce mouvement. Le premier qui se concentre autour de la figure de Martin Luther King, autour du principe de non-violence, et autour de l'idée que il faut obtenir des lois pour mettre fin à la ségrégation et à la et à l'interdiction ou aux restrictions du droit de vote contre les Noirs, et notamment dans le sud du pays. Et en 64-65, vous avez ces deux lois espérées par Martin Luther King et puis par ceux qui le soutiennent, qui sont autour de lui, qui l'appuient. Vous avez le Civil Rights Act en 64, donc qui met fin à la ségrégation légale. Et puis, en 65, vous avez le Voting Rights Act qui, lui, supprime les restrictions à l'alphabétisation, par exemple, mises aux Noirs américains dans le Sud. Et malgré ça, vous avez des contestations, des émeutes, c'est-à-dire une mutation de ce mouvement des droits civiques, et notamment, non plus dans le Sud, où de grands progrès ont été faits, mais plutôt dans le Nord du pays, le pays des ghettos, le pays beaucoup plus urbanisé. Et ça, c'est le début de ce qu'on appelait le Black Power. Et en fait,
c'est vrai qu'on a souvent dit, François-René Julliard, que ces deux mouvements s'opposaient, ou en tout cas qu'ils étaient dans un registre de mobilisation, l'un pacifiste et l'autre plus dans l'action directe, qui s'opposaient, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait. C'est l'opposition classique qu'on fait entre les deux. Et en fait, chacun des deux gestes que Kaepernick mobilise correspond à une des deux périodes. C'est-à-dire que le genou à terre est un geste qu'on a vu faire à Martin Luther King, et notamment et à ceux qui étaient autour de lui dans son association, notamment en 65 dans une marche très célèbre qui a une importance historique considérable pour l'obtention du Voting Rights Act, qui est la marche de Selma. Il y a plusieurs marches organisées par le mouvement des droits civiques. Et la deuxième marche, en fait, vous avez donc cette grande marche de milliers de personnes qui part de Selma en Alabama et qui va vers Montgomery, une ville particulièrement ségrégée et qui restreint le droit de vote. Et sur un pont, vous avez des soldats qui s'opposent à ce que le mouvement aille plus loin. Et là, Martin Luther King met un genou en terre pour prier, en fait. Ils n'iront pas plus loin cette fois-ci. Ils prient et ils s'en vont. C'est un geste donc de prière associé sociologiquement à la composition du mouvement de droits civiques à cette période, parce que c'est beaucoup des pasteurs, dont évidemment Martin Luther King, qui mène le mouvement. Ça, c'est pour la première phase. Et puis le mouvement, enfin le point en l'air correspond beaucoup plus au Black Power. C'est un symbole typique des militants plus jeunes, plus étudiants, plus radicaux du Black Power. C'est un geste plus revendicatif. On ne s'agenouille pas, on se lève, on brandit un poing vers le ciel. Et donc, a priori, on pourrait dire que ces deux gestes ont tendance à s'opposer. Et pourtant, Colin Kaepernick associe les deux et en quelque sorte réconcilie un peu ces deux tendances.
François-René Julliard, je vous propose qu'on écoute une évocation d'un très célèbre point levé. Nous sommes en 1968 à Mexico pour les Jeux Olympiques. C'est la finale du 200 mètres.
Et maintenant, couloir numéro 3, Smith va allonger sa foulée gigantesque. Regardez-le passer, regardez cette foulée, regardez-la. Premier Smith, deuxième, l'Australien Norman, venu en bolide dans les 50 derniers mètres. Troisième, Carlos, record du monde battu, 19-8. Les deux Américains monteront sur le podium, et là, avec leurs gants noirs, rappelleront que dans leur esprit, ils sont noirs avant d'être Américains. Ils diront, ne nous prenez pas pour des avaleurs de cacahuètes, nous sommes des êtres comme tout le monde.
Olivier Richomme, ce point levé et cette figure de Tommy Smith, est-ce que c'est encore une référence aujourd'hui pour les générations actuelles ?
Oui, bien sûr, même si beaucoup ont oublié ce qui s'est passé au moment des droits civiques, parfois une image est plus importante que de longs discours, mais on a vu récemment des publications et des gens qui reviennent un petit peu sur l'histoire militante des sportifs africains-américains en particulier, et qui ont remis un petit peu de la lumière sur... Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, en fait, dans les années 60, et qu'en particulier les jeunes de Black Lives Matter ont un peu l'impression de redécouvrir la roue, alors qu'en fait, comme pour reprendre une expression d'Obama, ils sont sur les épaules de la génération précédente. Et donc, voilà, on a un peu tendance à oublier. Smith, on ne l'a pas oublié. Par contre, il y en a d'autres. Par exemple, je ne sais pas, quand à Cleveland, on a Jim Brown, un joueur de football américain, avec Mohamed Ali, qui s'appelait Cassius Clay, avec Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar, les grandes stars de l'époque africaine-américaine qui se réunissent à Cleveland et qui ont voilà, des discours et des conférences de presse. On a un peu oublié tout ce militantisme parfois. Il nous reste que certaines images d'Épinal, mais celle de Jesse Owens, effectivement, est très, très importante, ou de Tommy Smith, par exemple.
Vous voulez dire, d'une certaine manière, il y a eu un défaut de transmission de l'histoire du militantisme, de ce mouvement militant, depuis les années 60, qu'on qualifie souvent comme âge d'or, jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, moi, de ce que j'en vois, c'est que la nouvelle génération, parfois, manque un petit peu, mais c'est pour ça que, voilà, les universitaires sont là, pour leur rappeler leur histoire. En particulier, certaines grandes figures, je veux dire, c'est pas nouveau, l'implication politique individuelle. Par contre, ce qui était vraiment nouveau à partir, on va dire, des années 2010, c'est que dans certaines ligues, certains athlètes qui maintenant sont des vraies marques eux-mêmes, ont décidé de s'émanciper des ligues professionnelles, ont décidé de s'émanciper des propriétaires. On n'est plus du tout dans le même rapport. Et donc là, on a une organisation des joueurs qui ont bien compris le pouvoir qu'ils avaient sur les réseaux sociaux, notamment, et surtout lorsqu'ils étaient unis. Et donc là, on a eu cet exemple, par exemple, de la ligue professionnelle de basket, où tout le monde, pendant, donc ils étaient en Floride, là, dans une bulle à cause de la Covid, tout le monde, et donc les propriétaires étaient d'accord, les dirigeants de la Ligue étaient d'accord, ils avaient tous leur t-shirt avec, à la place de leur nom, ils avaient des mots comme égalité, justice, et pendant les conférences de presse, ils sont venus en disant, voilà, moi je veux pas parler de basket aujourd'hui, je vais vous parler de Breonna Taylor, et c'est tout ce dont je vais vous parler pendant la conférence de presse. Ce que, en fait, Mohamed Ali avait déjà fait en disant, voilà, la boxe, c'est juste un moyen pour moi de vous parler de choses plus importantes. Mais là, ce qui est différent, c'est que là, on a vraiment un mouvement d'ensemble et une union de ces athlètes qui reflète aussi, on va dire, l'évolution de la société, parce qu'on se rend compte qu'en 2020, le mouvement Black Lives Matter est beaucoup plus accepté par une grande partie de la population qu'il ne l'était, par exemple, en 2014, au moment des émeutes de Ferguson.
Vous évoquez le mouvement du basketball, et je pense qu'il faut qu'on s'arrête un petit peu sur cette discipline. Effectivement, la NBA, la National Basketball Association, est souvent présentée comme une des ligues les plus progressistes, les plus engagées sur les questions de discrimination raciale. Est-ce que c'est une réputation méritée selon vous, et d'où vient cette spécificité du basket par rapport à d'autres sports, Olivier Richaume?
Alors il y a deux aspects. L'aspect historique, c'est qu'en fait c'est une ligue effectivement qui est marquée donc c'est une ligue qui est, enfin c'est un sport minoritaire à l'origine. La première moitié du XXe siècle, c'est un sport qui est considéré comme urbain, qui est associé à certaines grandes villes, les ghettos new-yorkais et tout ça. Et donc c'est un sport qui est considéré juif et africain-américain. Et lorsqu'il y a la ligue professionnelle lors de la seconde moitié du XXe siècle qui se crée, ce sont des propriétaires juifs et des entraîneurs juifs qui ont permis la déségrégation et qui ont permis à des Africains américains de rentrer dans la ligue de façon peut-être un peu moins compliquée que dans d'autres ligues. Et donc on a une vraie histoire, on va dire, c'est consubstantiel, on va dire, à l'ADN de l'histoire du sport aux États-Unis. Maintenant, ce qui est différent, c'est que le basket était beaucoup moins populaire avant aux États-Unis et que maintenant, en fait, c'est un sport global qui n'est pas centré que sur le marché américain, comme le football ou le baseball. Et donc, en fait, vous avez des figures comme LeBron James qui vendent des baskets en Europe, mais en Chine et tout ça. Et donc, comme c'est une ligue globale, leur message sur l'égalité, sur la diversité, est beaucoup plus porteur. Et donc, en fait, vous avez des questions économiques, en fait, qui expliquent aussi pourquoi la Ligue est beaucoup plus tentée vers ce genre d'évolution, on va dire.
Et puis il y a peut-être une autre spécificité du basket, c'est l'engagement direct non seulement des sportifs et des grandes stars, mais aussi des dirigeants du milieu du basketball. Écoutez, j'allais vous faire écouter un son, je vous fais réagir juste après.
À un moment donné, il n'était pas clair de savoir si nous allions continuer sur notre lancée, non pas à cause du Covid, mais à cause des troubles sociaux autour du meurtre de George Floyd. Et finalement, nous nous sommes réunis et nous avons décidé que nous devrions utiliser cette plateforme pour traiter de la justice sociale. En termes d'images, de logos sur les terrains, de maillots, de messages, toutes ces choses sont importantes, mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est l'engagement à long terme en matière de justice sociale qui, pour moi, fait partie de l'ADN de cette ligue bien avant que je n'arrive ici. Et je pense qu'il y a un engagement entre nous et les associations de joueurs et les joueurs sur le fait que nous devons vraiment entrer dans le vif du sujet, à savoir comment nous pouvons être des leaders, des moteurs du changement.
Voilà, c'était Adam Silver, le patron de la NBA, la National Basket Association, le 20 juillet 2020, qui a donc affiché son soutien à l'engagement des joueurs. Et la question que je voulais vous poser, Olivier Richaume, c'est que est-ce que c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire des joueurs soutenus, encouragés, bon, pas assez suffisamment, diront certains, mais tout de même, par donc leurs dirigeants?
Oui, Adam Silver, juif new-yorkais, on pourrait dire qu'on a une ligue qui est beaucoup plus une ligue démocrate en ce qui concerne le basket par rapport à une opposition avec le football américain où on aurait une ligue qui serait beaucoup plus, on va dire, marquée par le parti républicain. On a une guerre culturelle qui se retrouve dans beaucoup d'aspects, on va dire, culturels et notamment dans le sport. Silver, juif new-yorkais, son prédécesseur Stern, juif new-yorkais, et même si on remonte, O'Brien était un Irlandais, mais il avait été nommé par Johnson dans les années 65, qui a fait partie de l'administration Johnson. Donc là, une vraie filiation, on va dire, démocrate. Et ce qui s'est passé dans la Ligue NBA, pour vous montrer à quel point on a une évolution, c'est qu'on avait un proprio il y a quelques années à Los Angeles, Donald Sterling, qui était un peu un Donald Trump en puissance, raciste notamment, et puis comme il avait investi dans l'immobilier, voilà, il faisait payer de l'immobilier dans les ghettos africains-américains très cher. Enfin bon, c'était un personnage peu recommandable.
Quand vous dites un proprio, juste pour préciser, c'est-à-dire qu'il possédait un club.
Propriétaire de l'équipe des Los Angeles Clippers, ouais, qui allait pas très bien d'ailleurs, qui était mal géré. Et la Ligue, en fait, le commissaire représente, en fait, c'est les propriétaires. Il y a 30 à peu près propriétaires pour les grandes ligues, soit le football ou le baseball ou le basket. Et ces propriétaires élisent un commissaire. Donc le commissaire est vraiment, il ressemble vraiment à ce que la Ligue est, on va dire, dans son ADN. On a des nouveaux propriétaires en NBA qui viennent des nouvelles, voilà, de la dot-com et de la finance, et qui sont pas, on va dire, des fortunes héritées du pétrole ou voilà, comme dans d'autres domaines. Donc on a des nouveaux propriétaires. Et dans les années 2010, il y a ce propriétaire raciste, et bien la Ligue s'en est débarrassée. Ils ont réussi à le forcer à vendre son équipe. Alors, on va pas pleurer parce que, bon, ils l'ont forcé à vendre, ils voulaient pas. Bon, ils l'ont forcé à vendre, et il a vendu son équipe pour 2,5 milliards de dollars. Donc il est parti avec un chèque de 2,5 milliards de dollars, ce monsieur Sterling, mais la Ligue a quand même réussi à le forcer à partir, à le forcer à vendre. Et la Ligue a aussi fait très attention à ce qu'il y ait des minorités, et notamment, ils ont donné des conditions défiant toute concurrence à Michael Jordan, ancien joueur, pour avoir un ancien joueur africain-américain qui rachète une équipe NBA. Et donc, on a une vraie stratégie du haut vers le bas dans la Ligue de basket professionnelle.
Il faut peut-être rappeler à ce stade, François-René Julliard, que si les sportifs de haut niveau s'engagent sur les questions de société, soutiennent le mouvement Black Lives Matter, ils sont aussi les premières victimes souvent de racisme au sein même de leur discipline, de leurs instances. Est-ce que vous avez l'impression ces dernières années que des choses ont été faites, à l'instar du milieu du basket, pour lutter contre les discriminations et le racisme au sein du sport?
Ce serait difficile à dire. Disons que effectivement, alors c'est pas forcément sur la question du racisme, mais il y a une différence très forte entre les années 60 et aujourd'hui, qui est les conséquences de la mobilisation, les conséquences du militantisme. Dans les années 60, on a parlé de certaines grandes figures, Mohamed Ali, Tommy Smith, aussi, également John Carlos, qui termine troisième de la course et qui prendit également son point ce jour-là. Bill Russell en basket, toutes ces grandes figures ont eu à souffrir à un degré plus ou moins grand, mais plutôt plus que moins, de leur engagement. Vous avez donc Tommy Smith et John Carlos qui sont exclus des Jeux Olympiques au lendemain donc de ce geste à Mexico en 68. Vous avez Mohamed Ali qui est déchu de son titre de champion du monde des poids lourds et qui ne devra de combattre à nouveau que, enfin, ce droit, il ne le devra qu'à une décision de la Cour suprême en sa faveur. Et puis Bill Russell, qui joue pour les Boston Celtics en basket, qui voit sa maison vandalisée avec des graffitis racistes sur ses murs.
Alors, certes, ces sanctions, elles étaient assez spectaculaires à l'époque, mais vous dites c'est moins risqué. Mais si on reprend le cas de Colin Kaepernick, donc ce joueur de football américain qui a posé le genou à terre en 2016, depuis ce geste, il a été sorti du milieu de son équipe et il n'a toujours pas retrouvé le terrain. Il n'a pas retrouvé d'employeur. Donc il y a quand même, ça reste quand même un geste risqué. Ça reste quand même un engagement qui se paye.
Alors, incontestablement, Kaepernick, de ce point de vue-là, ressemble à ces athlètes-là, au sens où, justement, il a d'abord été mis comme remplaçant, Et puis finalement, voyant qu'il n'allait pas rejouer avec l'équipe de San Francisco, il a choisi de devenir agent libre, c'est-à-dire libre de contracter un nouveau contrat avec une autre équipe. Et personne dans la ligue de football n'a voulu de lui. Parce que, d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique, les enjeux étaient importants et en fait la politisation de Kaepernick entraînait des difficultés, des baisses d'audience, des baisses d'affluence au stade. Et donc, on peut penser que c'est aussi l'intérêt économique qui a joué dans le fait que Kaepernick n'ait pas retrouvé de club. Maintenant, Kaepernick est un peu, de ce point de vue-là, différent des athlètes qui se sont mobilisés en 2020, puisque quand vous regardez un peu à travers tous les sports, ceux qui ont pris des positions fortes, ceux qui ont boycotté un match ou deux, qui ont porté le rapport de force face à leur ligue, eh bien, on n'observe pas de sanctions particulières à leur encontre. Au contraire, on aurait plutôt, certes, un clivage dans l'opinion, ça c'est certain, dans un pays qui a failli réélire Donald Trump, mais pas de sanctions de la part des ligues, de la part des associations, que ce soit les grandes ligues professionnelles ou bien tennis, Formule 1, football. Rien de particulier, si vous voulez.
Ce qui est intéressant aussi dans le cas de Colin Kaepernick, Olivier Richaume, c'est que certes, le joueur n'a pas retrouvé le terrain, n'a pas retrouvé d'employeur, mais entre-temps, il a noué un partenariat avec la marque Nike qui en a fait sa nouvelle égérie. Et avec ce slogan, je le cite en français, « Croyez en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier ». Est-ce que d'une certaine manière, Colin Kaepernick est arrivé à retourner la situation, au moins en termes d'image ?
Oui, parce qu'en fait, d'un point de vue marketing, vous avez un pays qui est complètement divisé et vous avez une bonne moitié du pays, en fait, qui est plutôt avide de ce genre de positionnement et notamment de position politique en opposition à Donald Trump. Et donc, il est devenu un peu un héros pour la moitié du pays. Et donc, d'un point de vue marketing, c'est pas dit qu'il retombe sur ses pattes. En plus, il avait déjà fait sa carrière, donc c'est quand même un millionnaire. Hein, donc, on est quand même dans le sport spectacle 2020, ce sont tous des millionnaires, donc effectivement c'est difficile de voir quelqu'un qui se fait un peu blackbouler comme ça, mais on n'est pas non plus dans les situations financières des années 60. C'est quelqu'un qui est à l'abri du besoin. Je pense que Megan Rapinoe, par exemple, pour prendre un autre exemple,
donc, là, parce qu'elle a joueuse de football, championne du monde.
Oui, pardon, très militante pour les questions LGBTQ et qui aime beaucoup aussi s'opposer à Donald Trump. Je pense que d'un point de vue marketing, elle a sa niche et c'est pas forcément un mauvais calcul économique non plus, que ce soit aux États-Unis ou à l'international, vu que ce sont des marques, ces joueurs, et donc ils gèrent ça de cette façon. Donc je pense qu'il y a aussi des possibilités économiques. On peut monétiser l'engagement politique et certains le font très bien.
Et c'est là peut-être qu'on voit une différence complètement radicale avec l'époque des années 60. François-René Julliard, à l'époque, il était impensable de dire qu'on allait pouvoir utiliser son geste ou sa dénonciation publique pour la retourner à son avantage. À l'époque, dénoncer le racisme ou lever le poing sur un podium comme l'ont fait John Carlos ou Tommy Smith, c'était forcément prendre le risque de porter un coup à sa carrière.
Alors, par exemple, vous avez John Carlos qui a voulu, alors ça ne concerne pas forcément des contrats publicitaires, mais John Carlos, par exemple, a essayé une carrière dans le football américain et n'a pas pu trouver durablement de club. Vous avez des sanctions sportives d'une part, et puis effectivement des sanctions économiques, mais aussi parce que dans les années 60, les enjeux d'argent n'étaient pas les mêmes. Un certain nombre de sports n'étaient pas professionnalisés. Quand vous pensez à l'athlétisme, quand vous avez des athlètes qui vont, comme Tommy Smith et John Carlos, aux Jeux Olympiques, ce ne sont pas des professionnels, ce sont encore des amateurs qui sont des étudiants universitaires. Et donc, pour eux, les lendemains sont très incertains du point de vue de la reconversion. Et c'est ce qui va changer à partir des années 70-80, où vous commencez à avoir des contrats importants avec des grandes marques, et ça va de pair dans les années 70, donc ces années Nixon, de reflux du Black Power, du mouvement des droits civiques. vous avez des athlètes qui signent des contrats importants et qui, du même coup, corrélativement, se tiennent un discours qui est dépolitisé ou qui ne revendique pas d'affiliation avec la communauté noire. L'un des plus connus dans les années 70 qui fait ça, c'est quelqu'un qui est connu pour bien d'autres choses maintenant, qui est O.J. Simpson, qui était la star du football américain dans les années 70, l'un des meilleurs joueurs de la ligue, et qui est un des premiers à s'enrichir dans des proportions considérables. Et quand on lui demandait s'il se sentait noir, O.J. Simpson répond « Je ne suis pas noir, je suis O.J. », c'est-à-dire une individualité avant tout. Et puis, cette tendance à la fois de contrats commerciaux importants et en même temps d'un discours de non-engagement, on pourrait dire qu'il culmine dans les années 90 avec Michael Jordan. Ce qui est paradoxal pour une marque comme Nike, par exemple, qui a signé un contrat avec Michael Jordan, qui lui, dans les années 90, refusait de s'engager. Et cette même marque Nike qui signe ensuite aujourd'hui Colin Kaepernick, qui est l'inverse exact du point de vue de l'engagement de Michael Jordan dans ces années-là.
Michael Jordan qui a aussi un peu infléchi son discours sur ces questions et qu'on entend davantage désormais. On entendait d'ailleurs un extrait en début d'émission sur les questions de racisme. Vous disiez l'un et l'autre que l'engagement militant des athlètes est loin encore de faire consensus. Je vous propose d'écouter justement une illustration des polémiques provoquées par l'engagement des sportifs.
Malheureusement, beaucoup d'enfants et certains adultes prennent ces commentaires ignorants au sérieux. Il pourrait y avoir une leçon de prudence de la part de LeBron pour les enfants. Voilà ce qui se passe lorsque vous quittez le lycée un an plus tôt pour rejoindre la NBA. Et il est toujours imprudent de demander des conseils politiques à quelqu'un qui est payé 100 millions de dollars par an pour jouer au ballon. LeBron et Kevin, vous êtes de grands joueurs, mais personne n'a voté pour vous. Des millions de personnes ont élu Trump pour être leur entraîneur. Alors gardez les commentaires politiques pour vous, ou comme quelqu'un disait, tais-toi et dribble.
Ouais, c'était la journaliste de Fox News, Laura Ingraham, en 2018 à propos du basketteur LeBron James. Comment est-ce que vous expliquez l'un et l'autre cette animosité déclenchée chez une partie de la population par les prises de position politiques des sportifs? Est-ce que c'est spécifiquement américain, Olivier Richaume?
En fait, c'est une marque de la polarisation très forte qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Tout est politisé et les guerres culturelles se retrouvent partout. Vous avez des sports qui sont associés avec une communauté, par exemple le basket, la communauté afro-américaine, mais aussi le hip-hop, mais aussi la culture urbaine. Enfin, vous avez tout ça qui vient se greffer autour. Et puis, vous avez aussi l'univers médiatique, où là vous avez quelqu'un comme Ingraham qui est sur Fox News, qui en fait c'est chou gras en fait, c'est que Fox News font de l'audience quand ils s'en prennent à LeBron James, et je suis pas sûr que LeBron James ne vende pas plus de chaussures quand il répond à Donald Trump par tweet, et donc on a une espèce de d'escalade dans la surenchère médiatique parce qu'on a des enjeux financiers aussi derrière qui sont très importants, mais en fait ça se retrouve à tous les niveaux de la société, vous avez tout est polarisé. Quand vous voyez qu'en pleine pandémie, Donald Trump a réussi à présenter le fait de ne pas porter un masque comme une gageure, comme un marque de soutien envers le président, c'est que vous voyez bien que tout peut être politisé au maximum.
Alors, vous dites qu'il y a une bulle, enfin pas une bulle, mais en tout cas un emballement médiatique effectivement sur ces questions-là. Mais dans l'opinion publique, il y a aussi une partie de la population qui estime que ces joueurs ne respectent pas le drapeau, voire même ne respectent pas la nation lorsqu'ils refusent de se lever durant l'hymne américain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi pourquoi ce geste est perçu comme antipatriotique aux États-Unis, Olivier Richaume?
En fait, ça va très loin, ça remonte à très longtemps. Ce qu'on peut dire, c'est que le moment sportif, on va dire, parce qu'on a l'hymne national, il faut rappeler aux auditeurs qu'on a l'hymne national avant chaque rencontre aux États-Unis, qui est chanté par quelqu'un. Et c'est un moment vraiment très solennel où en fait on communie et en fait on est un peu dans un rapport religieux à la nation, où il y a tous les Américains qui communiquent, qui se retrouvent, et c'est ce moment où on définit un peu l'identité américaine. C'est un pays qui a une histoire assez, assez courte, en fait, et qui a eu besoin de marqueurs symboliques comme ça pour trouver un sens identitaire, et qui l'a trouvé notamment dans le drapeau et dans l'hymne national, les enfants à l'école, enfin, on a tout un, voilà, on a toute une culture de ce, et c'est vrai que, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce rapport au drapeau et à l'hymne national, et Copernic a été surpris d'ailleurs, parce qu'en fait, quand il s'est mis à genoux, c'est une marque de respect, en fait, parce que quand on s'agenouille, bah, c'est religieux, c'est pour prier, comme le rappelait Monsieur Julliard, effectivement. Et en fait, Copernic avait demandé conseil. Il avait dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour marquer mon désaccord vis-à-vis des bavures policières, mais quand même respecter. Et il pensait qu'en se mettant à genoux, ça serait une marque de respect, qu'on le verrait comme ça. Et en fait, la polarisation politique est, est telle que le moindre écart lors de l'hymne national devient quelque chose de démesuré, parce que la polarisation politique sur des questions on va dire raciales quand même, il faut le reconnaître, c'est quand même ça qui est derrière bah aujourd'hui, et comme encore voilà, c'est des blessures qui sont toujours ouvertes aux États-Unis.
Oui, et puis il y a aussi cette idée, François René Julliard, très largement partagée aux États-Unis, que le sport ne devrait rien avoir à faire avec la politique, ce cloisonnement dans la représentation du sport entre qui serait comme ça, comme dans une sorte de bulle, elle vient d'où est-ce qu'elle a toujours été présente dans l'histoire américaine, François-René Julliard?
C'est la tendance sur un temps long la plus prégnante, la plus générale. C'est-à-dire que, de façon générale, les athlètes ne se politisent pas, ne s'engagent pas, en tout cas de manière contestataire. Les deux exceptions étant donc ces années 60 qu'on a appelé parfois la révolte de l'athlète noir, et puis aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 2010-2020. Pour le reste, vous avez effectivement un consensus sur l'idée que l'athlète n'est pas forcément un militant légitime pour prendre la parole. C'est lié aussi à, et pas seulement aux États-Unis, mais à un imaginaire de l'athlète qui est cet individu qui n'a pas forcément fait d'études, qui a pu connaître une ascension sociale via le sport, et qui n'est pas nécessairement le plus légitime à parler, parce que n'ayant pas fait qu'il n'a pas toutes les marques symboliques de la légitimité à parler, comme pourraient avoir des intellectuels, des hommes politiques, et c'est aussi pour ça que les athlètes ne sont pas forcément considérés comme légitimes. D'ailleurs, la journaliste de Fox News le dit bien, c'est-à-dire vous n'avez pas été élu, vous ne faites que jouer au ballon. Donc c'était une manière de réactiver le slogan tais-toi et joue, shut up and play, qui est la règle générale, si je puis dire, à laquelle on essaie de ramener toujours les athlètes. Et il y a un dernier point, c'est aussi cet argument de l'argent, c'est-à-dire que on considère que quelqu'un qui gagne des millions ne va pas en plus se plaindre. C'est en quelque sorte un argument récurrent qu'on utilise contre les athlètes, et qui agissait, en tout cas jusqu'ici, un peu comme une prison dorée.
Oui, je vous en prie.
Oui, j'en prie.
On est avec vous, Olivier Richaume, François-René Julliard, pour évoquer donc la mobilisation des sportifs contre le racisme et les violences policières. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à un des sports les plus emblématiques de la culture américaine, le baseball. Le baseball qui revisite depuis peu la question des discriminations raciales dans son histoire.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Ce soir, des milliers de joueurs de baseball vont enfin rejoindre la place qui leur est due. Ce soir arrive un geste attendu depuis longtemps. Le livre des records du baseball est sur le point d'être transformé pour toujours. La Major League de baseball ayant annoncé que les Negro Leagues, qui opéraient entre 1920 et 1948, seraient désormais reconnues comme ligues majeures officielles. Les statistiques et les records de leurs 3400 joueurs vont ainsi rejoindre le livre des records officiels de la Major League. Des légendes du baseball comme Jackie Robinson, Willie Mays et Satchel Paige vont voir leurs records augmenter, leurs statistiques en Negro League s'ajoutant à leurs statistiques en Major League.
Ce mois de décembre 2020 a vu deux décisions historiques dans le monde du baseball. D'une part, la reconnaissance des performances des Negro Leagues, ces ligues qui étaient donc réservées aux joueurs noirs du temps de la ségrégation au sein de la principale ligue de baseball américain, la MLB. Et d'autre part, la mention au sein du panthéon du baseball, qu'on appelle le Hall of Fame, de la responsabilité de certaines stars de ce sport dans les discriminations raciales. Alors si le baseball semble revisiter son histoire, le milieu est quand même resté globalement assez silencieux sur les affaires de racisme dans la société. Les stars de la principale ligue de baseball n'ont pas rejoint le mouvement. Alors comment expliquer cette frilosité du milieu du baseball? Nous accueillons un nouvel invité pour en discuter, Peter Markey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire des États-Unis à l'Université de Rouen, auteur d'une thèse sur le baseball. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous expliquer ce que sont ou ce qu'étaient ces Negro Leagues qui donc ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle récemment par la Major League de Baseball?
Oui, alors ce sont des ligues ségrégées, c'est-à-dire qu'elles font réponse à la ségrégation ambiante dans les années 1920. D'ailleurs, on fête le centenaire de ces Negro Leagues cette année, en 2020. Elles ont été créées par des entrepreneurs noirs, le plus connu étant Rube Foster. Et un peu partout dans l'Est et le Midwest, des clubs, des entreprises sportives apparaissent, les Chicago American Giants par exemple, les Kansas City Monarchs, deux équipes à Philadelphie aussi, et puis beaucoup dans la région de New York, qui sont réservées aux joueurs noirs et qui attirent bien sûr un public noir majoritaire. Parmi celles-ci, des grandes stars, Satchel Paige, George Gibson, Coop Appelbell, et puis d'autres qu'on connaît un peu mieux parce qu'elles ont joué dans les ligues majeures, comme Hank Aaron, Willie Mays et puis Jackie Robinson aussi un petit peu.
Et alors, quel est l'enjeu aujourd'hui de la reconnaissance des résultats sportifs de ces ligues, donc qui sont quand même sur la période 1920-1948, c'était un peu tardif, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pourquoi aujourd'hui et quel est l'enjeu de cette reconnaissance?
Alors, pourquoi aujourd'hui? Moi, j'interprète ça d'une manière assez critique. C'est-à-dire que je vois une forme de suivisme de la part de MLB, donc Major League Baseball, la grande ligue qui gère le baseball aux États-Unis. Après août 2020 et la mobilisation des joueurs de NBA accompagnés par les propriétaires, après des prises de position à peu près dans tous les sports, la ligue de baseball est parue comme étant le dernier wagon d'un train qui était déjà quitté la gare et donc on peut y voir une forme de suivisme un peu tardif. Cela dit, c'est aussi le fait d'aboutissement de revendications de la part du syndicat des joueurs de baseball. Donc c'est aussi une victoire qui vient d'en bas et qui n'est pas forcément une décision venue des propriétaires. Il y a un enjeu symbolique, bon ça vous l'aurez compris, de s'associer à un mouvement entre guillemets pour la justice sociale, un mouvement aussi pour la reconnaissance de la contribution des Afro-Américains à la grandeur de ce sport qui a la réputation d'être un sport blanc. Mais il y a aussi un enjeu peut-être un peu plus ennuyeux pour nous à comprendre, c'est celui de l'impossibilité réelle de prendre en compte les performances. En effet, les Negro Leagues n'étaient pas dotées de statisticiens comme les ligues blanches, et donc il y a très peu de chances que ça aboutisse sur une prise en compte officielle, authentique, intégrale, même comparable avec les performances des joueurs blancs.
Et c'est peut-être pour ça que le geste restera symbolique. Vous dites que le baseball apparaît comme le dernier wagon d'un train qui est déjà parti sur les questions d'engagement sur les discriminations raciales. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est un sport qui est particulièrement conservateur? Est-ce que c'est aussi parce que c'est un sport qui compte beaucoup moins de joueurs afro-américains en son sein que le mouvement est resté plutôt en retrait?
On explique souvent ce retard ou précisément ce défaut d'engagement en faveur d'une réforme des pratiques policières par la démographie. Il est vrai que 85% des joueurs de NBA, par exemple, sont africains-américains, contre moins de 10% dans le baseball. Mais je suis pas pleinement convaincu par cette explication parce que les joueurs hispaniques sont majoritaires comptent à peu près pour 35% des joueurs de baseball. Donc additionné aux Afro-Américains, on arrive à peu près à 50%. Et les joueurs hispaniques aussi sont touchés par ce racisme systémique, c'est-à-dire des inégalités de traitement reproduites dans les institutions, par exemple le soin, la justice, l'éducation, le logement, la représentation politique et médiatique. Et Black Lives Matter a justement élargi le spectre de la mobilisation en redéfinissant le mot black quelque part. Il s'agit en fait de tous les groupes maintenus en bas de l'échelle sociale, les autochtones, les hispaniques, les personnes LGBT, les travailleurs immigrés. Donc il est probable que certains joueurs MLB se sentent peu concernés dans un premier temps, mais de plus en plus concernés qu'il y a 4 ans. En plus de la démographie, il y a des structures un peu lourdes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement le baseball parmi les sports américains est celui qui est le plus connoté comme étant le sport apolitique, puisqu'il est présenté comme un sport atemporel, né pendant la guerre de sécession, professionnalisé dans les années 1870, donc ancré depuis très longtemps dans les habitudes culturelles. Il y a une mystique autour du baseball assez frappante. C'est finalement, le baseball n'est pas un sport moderne. Il n'a pas été inventé au 19e siècle. C'est une variante de sport qui date du Moyen-Âge. On connaît bien la tech, par exemple, en Europe, en France, par exemple. Et c'est un sport très moderne qui s'est modernisé, qui porte avec lui une mystique autour du chiffre 9, par exemple, du chiffre 3, autour du récit, de la conquête en terrain hostile pour le retour à la maison, to go back home. Hein. Je rappelle que le point de départ s'appelle home. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Et donc le baseball a un statut d'exception.
Et justement, Peter Markey, est-ce que ce statut d'exception du baseball dans l'histoire, dans la culture américaine, ne pourrait pas aussi être un atout pour forger un meilleur vivre ensemble? Je vous pose la question parce que j'ai pu lire dans un article le journaliste américain Chuck Todd dire le baseball a l'occasion de guérir ce pays grâce à la diversité ethnique, raciale et politique de ses vestiaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ces vestiaires sont assez divers, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, à peu près 10% d'Afro-Américains, 35% d'Hispaniques, le reste étant qualifié comme blanc. Mais le problème, c'est que les autres acteurs du sport, donc les entraîneurs, ce qu'on appelle les managers, donc les dirigeants, les PDG des clubs, et puis les propriétaires ne le sont pas du tout. Il y a comme dans les autres sports, une mainmise par une élite blanche, qui fait que c'est un peu un vœu pieux que prêter au baseball la possibilité de guérir ses blessures. Et puis, on l'a bien vu, il y a une charge assez lourde contre le baseball, puisque historiquement, des personnes comme le commissaire des années 30 et 40 et 50, Landis, a été celui qui a défendu la suprématie blanche. Encore aujourd'hui, La Russa, qui a été nommé PDG, je crois, ou general manager d'une équipe de Chicago, dit le baseball est un sport de blanc, et si les joueurs veulent exprimer leurs opinions politiques, il faut qu'ils le feront à leur risque et péril. Vous avez aussi par ailleurs un syndicat de joueurs assez fort, hein, qui a été ouvert dans les années 60 par Marvin Miller, et avec l'appui de Curt Flood, un joueur noir qui a sacrifié sa carrière. Il est très peu connu en France. Curt Flood, c'est une légende aussi du sport américain qu'il faudrait réhabiliter, qui a sacrifié sa carrière alors qu'il était parti pour être un des meilleurs joueurs de son époque, pour dire nous ne voulons plus être tenus par cette clause de réserve, c'est-à-dire le fait qu'un joueur appartient à son club et ne peut négocier un contrat avec un autre club et doit accepter un transfert. Il a réussi, non pas lui, mais il a lancé le mouvement pour une remise en cause de cette clause de réserve. Et aujourd'hui, par exemple, Curt Flood n'est pas admis dans ce fameux Hall of Fame, dans ce fameux temple de la renommée du baseball. Donc, il y a beaucoup à faire encore.
Restez avec nous, Peter Markey. Je voudrais qu'on fasse réagir nos deux autres invités à cette question spécifique du baseball. Olivier Richaume, vous pensez qu'il y a une exception du baseball en matière d'engagement militant de ses membres aux États-Unis?
Oui, culturellement parlant, c'est vrai qu'il y a, quelque chose. Bon, Peter le disait, hein, c'est le passe-temps américain. C'est à peine considéré comme un sport. Mais je pense que durant l'émission, on a compris que le sport est extrêmement ancré culturellement. Le sport est extrêmement éminemment politique. Et je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que le sport est éminemment économique, le sport divertissement aux États-Unis. Et j'aimerais poser une question à Peter. Vous parliez donc de la démographie, mais moi, la démographie qui m'intéresse le plus, je pense que c'est la démographie des spectateurs. Est-ce que ça s'explique pas aussi par le fait que le baseball est quand même en train de devenir un peu un sport de vieux?
Peter Marquis.
Oui, tout à fait. Une étude de Nielsen, donc un institut d'Audimat assez récente, montre qu'il y aurait 85% du public du baseball à la télévision qui serait blanc et plus de 55 ans. Donc cette population-là ne s'intéresse pas aux mobilisations sociales, et si elle peut les accepter ou les comprendre, elle ne sert certainement pas les voir ces mobilisations polluer le plaisir de ce match de baseball légendaire qui est imperméable aux remous et aux revendications des uns et des autres. Il y a très peu de chances que cela change.
En 2018, il y avait tout de même eu un joueur du club de Oakland qui a mis un genou à terre durant la diffusion de l'hymne national. Il n'a pas été suivi par ses coéquipiers à l'époque. Est-ce que entre 2018 et aujourd'hui, est-ce que d'autres en baseball ont mis un genou à terre, ou est-ce qu'il restera le seul pour l'instant?
Je ne peux pas répondre à cette question précisément. Il est possible que sur l'ensemble des ligues, y compris les ligues mineures, il y ait eu d'autres personnes qui mettent le genou à terre. Et c'est vrai que c'est un geste fort. Mais je voudrais revenir sur un héros méconnu qui s'appelle Roberto Clemente, joueur portoricain des années 60, qui en avril 1968, quelques jours après l'assassinat de Martin Luther King, refusa de jouer avec son équipe, les Pirates de Pittsburgh, afin de rendre hommage à Martin Luther King.
Et comment ça a été pris à l'époque?
Eh bien, c'était très mal pris. D'abord, ce geste-là, c'est de refuser de jouer, c'est l'équivalent de mettre un genou à terre aujourd'hui. Et ça a été très mal pris, mais finalement, il a réussi, ça s'est propagé à toute la ligue, et le jour où le lancement de la saison, Opening Day, a été repoussé. Et toute sa carrière, Clemente a revendiqué son droit d'être traité comme un être humain, malgré son identité noire et portoricaine, objet d'une double oppression. Il a dit, je cite en traduisant en même temps, « Si je suis assez bon pour jouer ici, je dois être assez bon pour être traité comme le reste des joueurs. Je ne veux pas être mis dans un coin. Je suis venu ici comme un immigrant et je viens de Porto Rico. Je veux être là, bien visible, devant tout le monde. » Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs afro-américains qui jouent dans le baseball, voire hispaniques, ont peur d'être remplacés, notamment les joueurs afro-américains qui savent très bien qu'ils peuvent être vite remplacés par les joueurs hispaniques qui sont globalement meilleurs, et donc ils sont vite remplaçables en fait. Too much time trying to figure out why. Too much time to be patient. All this time you be feeding us lies. Ain't no truth in your statements. Too much pain in these little white lies. You left here. All this time trying to figure out how we're still here. I take pride in the things that we've done. Side by side in the revolution. Won't stay silent for things that I love. Cause we know them not care about us. White men can't jump, but at least they can't run. Broke these chains to put hands up. They can never see the kingdom coming. You wanna see us all amount to nothing. I can see your face, see the light in your eyes. I can see the change, feel the heat of the fire. If you can feel the pain, then you know you're alive. Both feet on the line, by enemies I will fight. No more, enemies I will fight. By enemies I will fight.
Et merci beaucoup à nos invités d'avoir participé à l'émission ce matin sur le racisme aux États-Unis et l'engagement des sportifs. Merci beaucoup Peter Marquis. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire des universités, en histoire des États-Unis à l'université de Rouen, que vous rédigez actuellement une thèse sur d'une thèse sur le baseball. Merci également à nos deux invités, Olivier Richaume, je rappelle maître de conférence en civilisation américaine à l'université Diversité et Lumière, Lyon 2, et votre ouvrage De la diversité en Amérique, politique de représentation des minorités ethno-raciales aux États-Unis. C'était paru en 2013. Et puis merci à vous, François-René Julliard, doctorant en histoire contemporaine aux universités Clermont-Auvergne et Paris-Nanterre. Et votre thèse à vous est toujours en cours, Les sportifs africains et les Jeux Olympiques d'été, études sur les stratégies politiques d'élévation raciale. Merci infiniment à tous les trois. Dans un instant, c'est la grande table, présentée comme toute cette semaine par Maëlys Pesserie.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture. C'est l'un des plus